Donc, OK, on va continuer notre étude sur Exode. Si vous voulez, on va tourner dans Exode 27. Exode 27, versets 1 à 8. Exode 27, versets 1 à 8. Alors, on continue l'étude du texte de façon systématique. Et comme on a dit tantôt, aujourd'hui, le but, c'est d'étudier la partie où le Seigneur nous parle de l'autel d'airain. Exode 27, versets 1 à 8. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux quatre coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Alors, on a vu tout à l'heure dans l'image que les cornes était là, et c'était l'ordre que le Seigneur avait donné à Moïse. Tu feras pour l'autel, là on voit les ustensiles qui servaient pour nettoyer la cendre, sont mentionnés dans le verset 3. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras des reins, tous ces ustensiles. Alors il y avait des choses, quand il parle de pelles, c'est pour ramasser. Alors, on parle de bassins, des cendriers, des fourchettes, des brasiers, tous des instruments qui avaient pour but de brasser la cendre et de ramasser tout ça éventuellement, parce que ça devait brûler 24 heures par jour, continuellement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de sacrifices qui se faisaient, parce qu'il y avait au-dessus de 600 000 Juifs qui vivaient autour du tabernacle. Alors, 600 000... Il y avait beaucoup de sacrifices qui se faisaient. Et verset 4, « Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis, donc en forme de, comme on a vu tantôt, et tu mettras quatre anneaux d'airain aux quatre coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas, jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. » Alors, on a vu que le treillis, ça devait être placé à l'intérieur, et ça devait être placé pour qu'il arrive à peu près à la moitié de la boîte, l'autel des holocaustes. Verset 6, tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, tu les couvriras d'airain. Voyez-vous ici, quand on parle de l'autel de l'holocauste, il n'y a rien qui est en or. Il y a le bois d'acacia qui représente l'humanité de Christ, et il y a l'airain qui était le métal le plus dur qui existait à l'époque, et le métal qui était le plus résistant au feu. Donc, l'image du jugement, que ça résistait au feu, que la divinité de Christ faisait en sorte qu'il a été capable de subir le châtiment qui était le nôtre, mais plus qu'une personne, il a subi le châtiment de tous ses élus, de tous les temps. Alors, ça y prenait sa divinité pour que son humanité puisse être capable de supporter un châtiment d'une telle ampleur. Et le verset 7, on passera les barres dans les anneaux et les barres seront aux deux côtés de l'autel quand on le portera. Alors, on a vu ça tantôt. On avait l'autel et sur chaque côté, on avait mis des barres et les barres avaient pour fonction de pouvoir que les Lévites ou les sacrificateurs puissent transporter cet autel-là éventuellement, parce qu'on sait que dans le désert, il changeait continuellement de place et qu'il se devait que quand il quittait, tout défaire ça, transporter ça, et à l'endroit où il revenait, il remontait ça, c'était tout un travail. Et dans le verset 8, tu le feras cru avec des planches, il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Voyez-vous, ça revient souvent dans le texte que l'Éternel dit, tu vas le faire tel qu'il t'a été montré sur la montagne. Il ne fallait pas que ça soit fait n'importe comment, il fallait que ça ait des dimensions précises, faites avec des matériaux précis, et toutes ces choses-là ont un symbolisme qui est important à comprendre. Parce que quand on va faire le parallèle entre ce passage-là, qu'on voit dans Exode 27, verset 1 à 8, et on va faire le parallèle avec d'autres passages, parce qu'on pourrait, aujourd'hui, juste décrire tel que le Seigneur voulait que ça soit construit, mais il y avait un but à cet autel-là. Là, aujourd'hui, il nous dit juste comment il devait être fait, quelles étaient ses dimensions, en quoi il était composé, toutes ces choses-là. Mais il y a d'autres passages des Écritures, comme dans Lévitique, où on vient nous parler que cet autel-là avait un but. Le but, c'était le sacrifice de victimes qui se devait éventuellement d'être brûlé. Et c'est vraiment l'image du jugement, que le jugement s'exerce sur la victime. Et la victime, dans le Nouveau Testament, l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Et c'est lui qui a subi le châtiment qui aurait dû être le nôtre, et il l'a subi à notre place. Alors tout ça avait pour but de pointer vers la venue future du Christ et la manière dont les péchés se devaient d'être expiés. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui « L'autel des reins, une image du jugement ». Alors, l'autel des reins symbolise que le croyant doit d'abord avoir reçu la grâce de croire dans l'œuvre substitutive et vicariale de Christ avant de recevoir le pardon et entrer dans la communion avec Dieu. On a dit, le juif qui se présentait pour que son animal soit tué et soit jugé à sa place, il fallait qu'il fasse ça avant de pouvoir rentrer dans le tabernacle, la maison d'or. Alors, le Christ a subi le terrible châtiment des péchés de ses élus par Dieu le Père, et ceci à leur place. Autrement dit, c'est ça que l'image principale de l'autel des reins, c'est vraiment de présenter cette chose-là. Alors, la Bible nous donne la signification de l'autel et de l'offrande. Ça parle de Christ et de son œuvre expiatoire et propitiatoire sur la croix. Tantôt, on expliquera un petit peu la différence des deux concepts de l'expiation et de la propitiation. Les Écritures nous parlent des deux. C'est important de saisir qu'il y a une différence entre les deux. Alors, c'était là le point central de toutes les pensées de Dieu et le seul fondement pour le salut des pécheurs. Autrement dit, pour entrer dans le Saint des Saints, il faut d'abord que Dieu t'ait fait la grâce, que tu réalises que tu étais coupable, que tu étais pécheur, que tu te devais de subir un châtiment qui était le châtiment de Dieu le Père, et que le Seigneur est en train de montrer à son peuple que le châtiment ne pouvait s'obtenir que par la substitution. Quand on parle de l'œuvre substitutive et vicariale, substitutive, ça veut dire que c'est substitué à nous. Vicariale, c'est à notre place. Il le fait comme si il nous aurait remplacés tous et chacun individuellement. Donc, l'autel portait aussi un autre nom. On l'appelait l'autel des holocaustes dans Exode 30, verset 28. Et aussi, une chose à remarquer, c'est que si on regarde l'ensemble des choses qui sont décrites dans ce qu'on a vu amener jusqu'à l'heure actuelle, c'était le morceau qui était le plus imposant et le plus pesant, parce que fait de bois et d'airain. Dans Exode 29, là, on va aller voir un peu d'autres versets dans d'autres passages, des fois un petit peu plus loin, et dans Lévitique, parce que je considère que c'est essentiel à comprendre le rôle et la fonction de l'autel des reins, de l'autel de l'Holocauste. Dans Exode 29, verset 37, ça nous dit « L'autel sera très saint et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. » Donc, on va commencer à regarder ce que les Écritures nous disent aujourd'hui dans Exode 27, verset 1 à 8. On voit, pour comprendre vraiment le rôle de ça, il faut aller faire des visites un peu dans d'autres livres qui nous parlent de sacrifices et qu'est-ce que le Seigneur voulait faire avec cet autel-là. Sans ça, on fabrique des descriptions et on manque un peu le bateau. Donc, on pourrait dire qu'il y a un encadrement scripturaire pour comprendre ce passage-là. Là, je voudrais prendre un moment pour parler de l'importance de lire ces Écritures d'une façon systématique. Si on lit les Écritures, juste que ce qui fait les passages qui font notre affaire, Nouveau Testament, Psaume, Proverbes, les passages sont, ben non, des passages historiques sont un petit peu plus faciles à suivre, on peut manquer le bateau. L'importance de la Bible, c'est que le Seigneur nous a donné le livre qui commence à Genèse puis finit à l'Apocalypse. D'avoir une méthode de lecture pour lire toute la Bible, tout l'Ancien Testament, parce que je défie n'importe qui de comprendre le sens du livre des Hébreux s'il n'a pas fait des liens avec le livre de Lévitique et avec le livre d'Exode. Il comprend absolument rien. Dans le livre des Hébreux, dans le Nouveau Testament, on parle de ces choses-là. Le voile séparait le saint des saints. On parle du chandelier, on parle... Et si quelqu'un a jamais lu l'Ancien Testament, il est complètement perdu. Alors, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est deux livres complémentaires que vous devez de lire pour faire les liens entre les choses. Comme aujourd'hui, si quelqu'un a déjà lu l'Exode à plusieurs reprises et qui s'est déjà fait expliquer ça, quand vous allez arriver au livre des Hébreux, vous allez voir, il y a de la lumière qui va se faire parce que vous allez vous souvenir de choses que vous avez déjà vues. Donc, il y a un encadrement scripturaire et souvent, pour comprendre le rôle de quelque chose dans les Écritures, il faut aller voir d'autres passages des Écritures qui nous parlent de l'autel d'airain. C'était quoi la fonction? Pourquoi Dieu voulait qu'il y ait un autel d'airain? Aujourd'hui, on voit la description, mais c'est important de voir pourquoi Dieu voulait que ça existe comme ça. Dans Lévitique, chapitre 17, verset 11, on apprend quelque chose. Ça dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Voyez-vous, il nous dit dans le passage que quand il sacrifiait les animaux, c'était pas juste de le tuer puis de le garrocher dans la chaude pour qu'il brûle. Il y avait un deuxième élément qui était là, qui avait le sang. Et le Seigneur nous apprend quelque chose dans Lévitique 17, verset 11. L'âme de la chair est dans le sang. L'âme de Jésus était dans son sang. Son sang n'était pas un sang humain souillé par le péché, transmis d'une génération à l'autre. Son sang était pur, absolument pur. Donc, le sang de Christ, c'est important. Les Écritures nous en parlent, comme on est sauvé, on est justifié par le sang. Alors, c'est important de faire la part des choses. Dans Hébreux 9, 22, ça dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Alors, l'Holocauste, ça symbolise Christ qui se livre sans réserve à Dieu dans sa mort, jusqu'à être totalement consumé sur l'autel. Sur la croix, Christ a été dépouillé de tout, brisé, anéanti. Il est venu pour faire intégralement la volonté du Père. Cet holocauste était perpétuellement renouvelé sur l'autel, comme Christ est pour toujours devant Dieu et les hommes, l'agneau qui a été immolé dans Apocalypse 5, verset 6. Très important de voir ça, le sacrifice. Donc, Christ qui est représenté, ici, l'animal avait pour but de démontrer aux Juifs que leur culpabilité et que s'ils voulaient obtenir le pardon, il fallait que leur culpabilité soit transférée sur une victime qui subissait le châtiment qu'eux auraient dû subir. Alors, c'était comme quand ils voyaient l'animal brûlé, le feu a toujours été dans les Écritures un symbole de jugement. Tout le temps. Donc, il y avait cinq actes qui étaient significatifs dans les sacrifices sanglants. La première, c'était qu'il y avait une présentation de l'animal. Le Juif prenait, il était en dehors du parvis, il arrivait avec son agneau ou son bœuf, ou quand il était très pauvre, des oiseaux, et il venait à l'entrée du sanctuaire et il l'amenait lui-même. C'était un geste personnel. Autrement dit, tout croyant doit d'abord s'identifier à la victime personnelle. Quand on vient à Christ, il faut savoir qu'on était coupable et que nous, on transfère notre culpabilité sur lui par la foi et on sait que le Père va juger l'ensemble de tous les péchés qu'on en a commis depuis qu'on existe sur lui et que nos péchés vont être jugés sur la victime à notre place. Donc, c'est un geste personnel. On ne peut pas décider qu'un de mes enfants, que j'aimerais bien qu'il soit sauvé, décider pour lui, « Ah, je transfère la culpabilité de mon fils sur la victime. » Il faut que ça soit quelque chose de personnel. On le sait dans la foi. Et la deuxième chose, il y avait l'imposition des mains. Donc, on parle de cinq actes. Le juif amenait l'animal dépasser la porte. Et après, on a vu tout à l'heure dans une diapositive qu'il fallait que le juif mette la main, les deux mains, l'imposition des mains sur l'animal, qui était une image qui symbolisait que sa culpabilité, il la transférait sur l'animal. Troisième chose, donc, autrement dit, Dieu s'assimilant à la victime, il faisait passer sa faute sur elle. La troisième chose, c'était la mise à mort. Donc, on a parlé de cinq actes, la présentation de l'animal, l'imposition des mains. Là, on est rendu à la mise à mort. On a vu que le sacrificateur avait pour but de égorger l'animal et recueillir son sang. Quand on regarde ça aujourd'hui, on trouve ça des fois un petit peu, on peut trouver ça un petit peu sanglant. Mais il reste que c'était des choses qui avaient pour but de pointer vers Christ et d'enseigner le peuple avec, prenait des choses matérielles pour leur présenter des réalités spirituelles qui avaient leur équivalent. Donc, Ésaïe 53, versets 4 à 6, nous dit que la victime représentait Christ, que tout pécheur a contribué à faire mourir sur la croix. Et il y avait l'application, quatrième acte, l'application du sang purificateur. Le sacrificateur répandant le sang sur l'autel, à sa base, ce que ça dit dans le texte, dans d'autres passages, et sur les cornes de l'autel. Donc le sang qui ramassait de la victime, il se devait de le mettre à la base de l'autel et aussi sur les cornes. On va voir tantôt le symbolisme de tout ça. Et le cinquième acte qui était représenté dans toutes ces choses-là, c'était la combustion totale du sacrifice par le feu. Quand tu mettais un animal là-dedans et qu'il y avait l'air qui passait par en dessous, du bois qui était par en dessous, du bois qui était par-dessus, que le feu t'appognait dedans, c'est sûr que l'animal, il finissait par être calciné, il faisait pas cuire la victime. Elle était brûlée au complet. L'image de ça, ça représente, c'est que quand Christ était sur la croix, Dieu le Père a jugé nos péchés en lui et a subi notre châtiment à notre place. C'est très important. Et le jugement représente que le jugement était total. Il ne brûlait pas juste une partie de l'animal, il brûlait l'animal au complet. L'idée, c'est que Dieu, quand il a jugé nos péchés en son Fils Christ, il a jugé au complet, et quand c'était fini, c'était de la cendre au complet. Donc, autrement dit, c'était vraiment brûlé, comme on dit en québécois, à l'os. Vraiment, il ne restait plus rien. Dans les Écritures, le feu a toujours été un symbole du jugement divin. Quand je vous disais tantôt qu'il fallait qu'il y ait un feu et que cet autel-là finisse par être toujours en fonction, on le voit dans différents passages des Écritures. Donc, le feu, ça devait être perpétuel. Le feu sur l'autel avait été allumé du ciel et il ne devait jamais s'éteindre. Quand on regarde dans Lévitique 9, verset 24, « Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. » Je ne sais pas jusqu'à quel point ils comprenaient le symbolisme de tout ça, là. Mais il reste que ça les réjouissait quand même. Et dans Exode 29, un petit peu plus loin, versets 38 à 46, donc avant de commencer à étudier l'autel comme tel, on va voir la fonction de ça. « Et voici ce que tu offriras sur l'autel. Deux agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. » Donc, un le matin, un le soir. « Tu offriras avec le premier agneau un dixième d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu. Voyez-vous, ça dit d'une agréable odeur devant l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Et là, il y a une phrase importante, c'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. C'était après l'offrande que Dieu disait qu'il venait nous rencontrer. N'est-ce pas la même chose avec nous? Quand Christ est venu nous voir, on l'a rencontré, on l'a vu, et c'est là qu'on se rend compte, après qu'on a compris le rôle de Christ qui a subi notre jugement à notre place, que là, on se rencontre avec Dieu. Verset 43, « Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, pour habiter au milieu d'eux, je suis l'Éternel, leur Dieu. » Donc, on a vu un petit peu des passages un petit peu plus loin dans l'Exode et des passages dans Lévitique pour nous donner un petit peu une image de tout ça. L'autel, c'était un besoin absolu. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans le tabernacle sans avoir passé par l'autel au d'abord. Il ne peut pas rentrer dans le tabernacle sans l'autel, la cuve d'airain, qui est l'image de notre sanctification. Non seulement on se doit de passer par Christ pour que notre culpabilité soit transférée sur lui, qu'il reçoive notre jugement à notre place, mais il fallait également qu'il ait accompli la loi à notre place. Donc le châtiment, tout authentique croyant doit reconnaître l'absolue nécessité de passer par l'autel pour que le châtiment de ses péchés soit effectué par Christ de façon substitutive et vicariale. Le mot vicaire ou vicarial, ça veut dire à notre place. Il s'est substitué, mais personnellement. Il s'est substitué à moi, il s'est substitué à qui que ce soit dans la salle ici qui est véritable chrétien ou qui que ce soit qui entendra le message éventuellement dans le temps. S'il est véritablement un enfant de Dieu, Christ s'est substitué à lui personnellement. Et il nous a, le besoin absolu avait pour but de nous préparer à entrer dans la sainte présence de Dieu, éventuellement. Et il y avait aussi la cuve d'airain qui est vraiment le symbolisme de la nécessité de la sanctification. Une cuve, il y avait de l'eau dedans, c'était pour se laver. L'image de la sanctification pour le chrétien. Donc, avant d'entrer dans la présence de Dieu, il faut d'abord que tu aies reconnu qu'il y a une victime qui a pris ta culpabilité à ta place, qui a subi ton châtiment à ta place, et l'image d'être brûlé le sang, on reviendra un petit peu là-dessus. Et après, l'étape suivante, il faut que tu te laves avant de rentrer dans le saint, dans la maison d'or. Avant d'entrer dans la présence de Dieu, l'image de l'autel avait... C'était vraiment l'idée de nous sanctifier, de nous purifier, de nous laver avant d'entrer dans la présence de Dieu. Donc, voyez-vous, l'autel, voyez-vous, le Seigneur, il part d'un bout, il vient jusqu'à la porte. Et là, après ça, il revient, il part de l'autel des airains, et il s'en va et il va retourner vers la porte. Mais l'image de la sanctification va revenir un peu plus tard. Et pour que notre adoration soit acceptée de Dieu, et les Écritures utilisent l'expression « d'une agréable odeur à l'Éternel ». Si on accepte Christ comme notre substitut pour nos péchés, notre culpabilité, si on accepte de se sanctifier avant d'entrer dans sa présence, quand on va offrir un sacrifice d'adoration à Dieu, Dieu nous dit qu'il va la recevoir comme étant quelque chose d'agréable odeur. Dans Hébreux 13, versets 12 et 13, ça nous dit... C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, et voyez-vous, il y a une question de sanctification du peuple par le sang de Christ, a souffert hors de la porte, Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. On ne fera pas la signification de tout ce passage-là dans Hébreu, mais c'est de nous montrer que ça dit que Jésus a souffert et l'importance de son sang dans notre salut. Autre chose, autre caractéristique de la position de l'autel, il y avait différentes caractéristiques par rapport à cette position-là. Premièrement, elle était à l'est. Jésus est venu par l'Orient. L'Orient est à l'est. Donc, montrer que la porte arrivait par le moyen de l'est. Christ est venu par l'Orient. Et la chose se trouvait en dehors du sanctuaire. Donc, l'autel où on faisait les sacrifices, où on brûlait, c'était pas dans le sanctuaire, c'était en dehors du sanctuaire. Là, qu'on vient de lire tout à l'heure de Hébreux 13, verset 12 à 13, « Afin que Jésus, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte du tabernacle. » Et elle était aussi sous le ciel, pas à l'intérieur avec les tapis, sous les tapis, sous le ciel, en plein air, et à la vue publique. Colossiens 2, on fait un lien avec le Nouveau Testament, versets 13 et 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Très important. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Nos péchés passés, nos péchés d'aujourd'hui, et nos péchés de l'avenir. Il nous a fait grâce pour tous nos péchés. Mais est-ce que ça justifie le fait que se dit maintenant que tous nos péchés sont pardonnés, moi je vais vivre dans le péché? Non. Les Écritures nous disent qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas changer la grâce de Dieu en dissolution. Verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait entre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées, voyez-vous, publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le malin, avec toutes ces choses qu'il fait faire aux hommes, le jugement s'est fait publiquement. Christ sur la croix, tout le monde voyait l'autel. Là, l'autel, c'était à la croix. C'était comme on fait un transfert, l'autel, c'est à la croix. Donc, c'était publiquement, c'était sous le ciel à la vue de tous. Et c'était en face du sanctuaire. En face du sanctuaire. Donc, après la porte d'entrée et en face du sanctuaire. Donc, l'autel des reins était situé après la porte d'entrée du parvis et face à la porte d'entrée du tabernacle. Il n'était pas question d'entrer dans la maison d'or sans avoir passé d'abord par l'autel des reins. Comme il n'est pas question que nous adorions Dieu sans avoir d'abord réalisé notre besoin absolu de transférer la culpabilité de nos péchés sur Christ et que Dieu juge nos péchés sur Christ à notre place. Très important de saisir ça. Et la question aussi de la justification. Nous ne sommes pas justes parce que nous avons fait des bonnes actions dans notre vie, et que Dieu voit une belle petite balance, puis là, il pèse nos actions. Il a plus fait de plus de bonnes actions, on va lui envoyer dans le ciel. Il n'y a aucune bonne action que Dieu va compter pour qu'on atteigne le ciel. Notre justification, nos œuvres justes, c'est Christ qui les a fait à notre place. Ça, là, c'est d'une importance capitale. Il n'y a rien de plus important en théologie de comprendre ça. Si quelqu'un comprend que la culpabilité de ses péchés, Christ les a subis à sa place, et s'il comprend que pour se présenter devant Dieu, il fallait que tu aies fait une obéissance parfaite à chacun des commandements et durant toute ta vie sans avoir manqué une seule fois. Qui a fait ça? Personne. Aucun être humain n'a fait ça. Christ l'a fait. Il l'a fait à notre place. Après que le Père a jugé nos péchés en lui, il a pu transférer ce qu'on appelle la justice de Christ. Il l'a mis sur notre compte. Donc, Dieu nous voit comme si nous avions accompli parfaitement, obéi à la loi, aux 10 commandements, à la perfection, chaque jour de notre vie, sans avoir fait aucun manquement. Pas parce qu'on l'a fait véritablement, parce que Christ l'a fait à notre place. C'est ça la foi. On croit que Christ a subi notre châtiment et on croit que Christ a accompli les œuvres que Dieu le Père nous exigeait qu'on fasse. Il le fait encore à notre place. Quand on comprend ça, on a compris le salut et c'est merveilleux. Maintenant, on va regarder les matériaux que la Bible nous parle, comment l'autel se devait d'être construit. Premier matériau qu'on parle, on parle du bois d'acacia. On a parlé dans les leçons précédentes que le bois d'acacia était un bois incorruptible et souvent, la croix, les Écritures nous disent, il a été pendu au bois. Donc, vraiment, c'est l'image de l'humanité de Christ. Et cette fois-ci, l'humanité de Christ n'est pas recouverte d'or, mais est recouverte d'airain. Et l'airain, on l'a mentionné au cours des leçons précédentes aussi, le métal le plus dur et le plus résistant au feu de tous les métaux. Alors, c'est vraiment l'idée que Christ, dans son humanité, se devait de, par sa divinité, c'est comme si c'était l'airain était la divinité qui recouvrait son humanité pour être capable de subir le châtiment que plus qu'un homme à la fois. Donc, l'airain, c'est le métal le plus dur et le plus résistant au feu. Comme le feu est le symbole du jugement, l'airain représente la capacité de Christ de subir le châtiment de ses élus à cause de sa nature divine. Maintenant, parlons des dimensions. Le Seigneur ne dit pas des dimensions comme ça juste pour le plaisir des choses. Il y a des chiffres qui sont là, qui sont représentatifs, qu'on a vu un peu le symbolisme des chiffres aussi. On parlait de sa longueur, 5 coudées. Donc, une coudée, c'est à peu près grand comme ça, 5 fois. Donc, ça avait à peu près 8 pieds, quelque chose comme ça, pied et demi, 8 pieds. Sa largeur, 5 coudées. Le texte nous dit qu'il fallait qu'il soit carré. Donc, il était fait de bois, 4 grosses planches de bois, recouvertes d'airain, reliées entre elles, qui faisaient comme un genre de gros cube de bois recouvert d'airain. Et ça nous dit que sa hauteur était de 3 coudées. On a vu dans les leçons précédentes que le chiffre 5 représente souvent le chiffre de la grâce, et c'était carré. Et le 3 représente la Trinité, donc l'implication des trois personnes de la Trinité dans l'œuvre de notre salut. Maintenant, il y avait des parties. L'autel avait des parties. Il y avait d'abord ce qu'on pourrait appeler le châssis ou la boîte de forme carrée. Il était de bois d'acacia recouvert d'airain. Le châssis était posé directement sur la terre et servait à recevoir le corps de l'animal sacrifié. Il était composé de 4 planches recouvertes d'airain. Le nombre 4, on l'a vu dans les leçons précédentes, symbolise que le salut serait accordé aux 4 coins de la terre. L'airain résiste aux flammes ardentes qui consument tout, une image de la manière dont notre Seigneur Jésus a subi l'ardeur de la colère de Dieu, volontairement et dans une entière soumission, mais aussi avec une détermination unique et dans une persévérance sans pareille. À lui la louange. Maintenant, il y avait une autre partie, qui était la grille d'airain, qui était faite en forme de treillis, on l'a vu tantôt. La grille de l'autel de l'Holocauste était entièrement d'airain. Elle était cachée à l'intérieur de l'autel. Voyez-vous, la grille était cachée à l'intérieur de la boîte. Le bois de la victime était posé dessus. L'air qui arrivait là pouvait entrer librement par-dessous. C'est là que se développait le feu le plus ardent, qui restait caché aux yeux du sacrificateur. Le Seigneur Jésus-Christ a connu dans ses souffrances, jusqu'à la mort, une détresse indescriptible. Il a dû endurer d'une manière terrible la colère de Dieu. C'est bizarre que le feu qui était le plus ardent était caché à la vue du sacrificateur. Nous, on est des sacrificateurs. Le Seigneur nous dit qu'on est des sacrificateurs. Et est-ce qu'on la voit, nous aussi, la détresse que le Seigneur a dû porter sur la croix? Elle était invisible pour le sacrificateur du temps, parce que c'était trop intense pour qu'il la voit. Mais je pense que c'est à peu près la même chose pour nous aujourd'hui. La détresse que Christ a subie sur la croix, pour nous, à notre place, c'est indescriptible, c'est insondable. Oublions ça, on ne verra jamais la véritable fondement, la véritable dimension de ça. Il y avait aussi une autre partie qui était les 4 cornes. Les cornes des Écritures, c'est toujours un symbole de puissance et de force. pourquoi le sang se devait d'être placé sur les cornes? Autrement dit, c'était une image de la puissance du sang. Et si on fait le lien avec ce qu'on a vu tantôt dans Lévitique 17, qu'est-ce que le sang, il y avait quoi dans le sang? L'âme. L'âme du Seigneur était dans son sang. Et quand les Écritures nous parlent si souvent du sang précieux de Christ, pourquoi c'était la puissance du sang devant Dieu? Autrement dit, notre justice était la justice de Christ. L'âme de Christ était parfaitement pure, immaculée, impeccable. C'est pour ça que ça avait de la puissance. Quand on mettait le sang sur les cornes, la puissance que ces choses-là avaient devant Dieu, c'était insondable. Deux autres choses, il y avait deux barres, une de chaque côté pour transporter. Les deux barres étaient faites de bois d'acacia plaqué d'airain. Elles nous font penser à deux caractères merveilleux de notre grand libérateur et sauveur. Il est le réconciliateur et il est aussi le rédempteur. Réconciliateur en regard des droits de Dieu sur le pécheur rebelle. Le Seigneur dit dans Ésaïe 27, verset 5, qu'il fasse la paix avec moi, qu'il fasse la paix avec moi. Rédempteur parce que trois puissances nous retenaient captifs et sous leur empire. Satan, le péché originel et la mort. Un seul pouvait briser les chaînes de ce misérable esclavage, le vainqueur, le Christ Jésus, notre Seigneur. Il nous a apporté la liberté, car Satan est vaincu, la puissance du péché est brisée et la mort annulée. Maintenant, on parle des outils ou ustensiles. Fort probablement, ça peut avoir un symbolisme peut-être beaucoup plus développé que je n'ai pas fouillé plus qu'il faut cet aspect-là. Mais ça nous dit que les sacrificateurs avaient besoin d'outils pour maintenir et entretenir la permanence du feu. Donc, ça impliquait qu'éventuellement, à force de brûler des victimes, que tu venais que la chose était pleine de cendres, il fallait que tu vides, tu prenais des plans, tu prenais des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Donc, tous ces ustensiles-là étaient aussi faits d'airain, parce que c'est sûr que des fois, en brassant les cendres, il devait avoir des choses qui étaient extrêmement chaudes, tu prenais pas ça avec tes mains, c'est sûr. Maintenant, l'autel, sa signification. L'autel des holocaustes symbolise l'expiation et la propitiation des péchés des élus par Christ. Par l'expiation, la culpabilité de nos péchés est couverte. Un des premiers sens du mot expiation, ça veut dire couvert. Nos péchés sont comme couverts. Tous nos péchés, passés, présents, à venir, sont couverts par la mort de Christ, par son sacrifice sur la croix. Alors, les Écritures nous disent que le péché se doit d'être puni, parce que le Seigneur nous dit dans Exode 34, verset 7, il ne tient point le coupable pour innocent. Tous nos péchés sont couverts, ceux du passé, ceux d'aujourd'hui et ceux de l'avenir. L'expiation met l'accent sur le problème. La propitiation, Dieu, Christ sur la croix, a détourné et apaisé la colère de Dieu et la justice de Dieu en subissant notre châtiment à notre place. La personne de Dieu nous a été rendue, si on veut retenir propitiation, nous a été rendue propice par le fait que Dieu, le Père, a jugé nos péchés en Christ. Donc, il y en a un qui met l'accent sur le problème d'expiation. Il couvre tous nos péchés présents et à venir. Mais pour les couvrir, il a fallu que quelque chose qui se passe. Nos péchés ont été jugés sur Christ. Et Christ, l'image du feu, c'est l'image du châtiment qu'il a reçu à notre place. Il a reçu exactement ce que nous, personnellement, nous aurions dû subir en enfer pour l'éternité. Il a subi à notre place. Ça, quand on disait tantôt que les flammes, le sacrificateur était hors de la vue du sacrificateur. Je pense qu'il était hors de notre vue également. Donc, propitiation met l'accent sur la personne de Dieu. Christ voulait d'abord honorer son Père. Là, si on retournerait dans le livre des Lévitiques et on regarderait les offrandes que les Juifs se devaient de faire, il y en avait 5, si je me souviens bien. La première, c'était l'Holocauste. L'Holocauste, là, c'était pas quelque chose qui avait pour but de ramener l'homme à lui. Le Christ faisait d'abord son sacrifice comme pour dire au Père, tout ce que tu avais exigé des hommes était parfait. C'était une offrande, la première offrande, celle de l'Holocauste, c'était plus une image pour parler que Christ voulait d'abord honorer son Père avant que nous on bénéficie. Alors c'était vraiment l'image de vouloir retourner à Dieu le Père la gloire plus que pour la réconciliation. Ça vient après. Quand on regarde l'ensemble, qu'on étudie un peu dans Lévitique les sacrifices, les différentes formes d'offrandes que le Seigneur voyait, il y en avait quelques-unes qui étaient d'agréable odeur à l'Éternel. Et après, il parle des offrandes pour le péché. L'offrande de l'Holocauste n'était pas une offrande pour le péché. C'était une offrande d'abord pour reconnaître que Dieu est parfait dans toutes ses voies. Et pour, donc c'était important de réaliser ça. Donc son rôle et les bénéfices. On va terminer là-dessus. Le rôle, il y avait 7 résultats bénis qui sont rattachés au rôle et à la fonction de l'autel de l'Holocauste. 7 résultats bénis qui se rattachent à cet autel et au sang de Christ. La première, c'est la rémission. Le sang de Christ libère les coupables de la dette de leur péché. Moi, je me souviens la première fois que j'ai vraiment saisi le salut d'aplomb, c'est quand je l'ai vu en termes de comptabilité. Le Seigneur nous dit que nos péchés, on avait une dette envers le Seigneur qui était énorme. Je ne suis pas sûr qu'il y en a même un d'entre nous qui se rend compte à quel point la dette qu'on avait envers Dieu était énorme. Elle était énorme au point que pour payer pour tous les péchés qu'on avait faits, l'éternité n'aurait pas suffi. C'est pour ça que l'enfer, c'est éternel. Les péchés que les êtres humains ont faits et pour lesquels ils n'ont pas obtenu le pardon, ils vont payer éternellement. Ça finit jamais. Jamais, jamais. Alors, la rémission des péchés, il nous libère de toute la dette de nos péchés. Et cette dette-là, c'était qu'on aurait dû subir le châtiment durant toute l'éternité sans arrêter. Alors, la dette était énorme. Et cette dette-là, on la prend, puis on la transfère sur la tête de Christ. On s'identifie à lui comme étant la victime. C'est lui qui va recevoir ce châtiment-là à notre place. Voyez-vous? La rémission des péchés. En Éphésiens 1:7, ça dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Dans Colossiens 2:13, ça dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu la vie à la vie en lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Nos péchés, là, si on se dit aujourd'hui qu'on est justifié, il y a quelqu'un qui les a payés. Il a payé pour nos péchés passés, il a payé pour les péchés qu'on va faire aujourd'hui, et il a payé aussi pour les péchés qu'on va faire demain. Il les a tous couverts. Mais s'il les a couverts, ça ne veut pas dire que ça n'y a rien coûté. S'il nous était donné de comprendre la quantité de souffrance que le Seigneur a dû subir pour nous à notre place, je suis sûr qu'on tomberait sur notre face et on hurlerait de joie. Deuxième résultat, la purification. Il lave ceux qui sont souillés de l'infamie de leurs péchés. Apocalypse 1:5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Troisième chose, la justification. La justification, ça c'est, on va revenir en bas dans les enseignements, mais il ne faut pas que quelqu'un passe une vie chrétienne sans comprendre le concept de la justification, parce que il manque tellement un gros morceau du salut que c'est impardonnable. La justification, c'est le fait d'être déclaré juste par Dieu lui-même. Si on est véritablement sauvé, Dieu lui-même, le grand juge de l'univers, c'est comme s'il aurait pris sa masse, il aurait dit, « Un tel, je le déclare juste. » Mais là, on pourrait se dire, comment Dieu peut dire qu'une personne pécheresse est déclaré juste? probablement, dans, au cours de ma vie, j'ai fait quelques gestes qui, aux yeux de Dieu, étaient justes, mais pas l'ensemble de mes pensées, de mes paroles, de mes actions puis de mes omissions. Pas l'ensemble. Quand il nous déclare juste, c'est sur la base du transfert, encore une fois, substitutif et vicarial. Lui, quand ça dit dans Jérémie, on a vu un matin, le Seigneur parle du Messie à venir, il dit de lui, il parle de lui comme étant le germe, et il dit de lui, il va être Jéhovah Tsikenu, qui veut dire en hébreu, l'Éternel, notre justice. Et Jésus est l'Éternel. Quand il est venu sur la terre, il a accompli sur la terre une vie de parfaite obéissance sans aucun manquement, à aucun commandement, en aucun moment de sa vie. Et après que nos péchés ont été jugés sur son Fils, le Seigneur a fait un autre transfert comptable. Il a pris sa justice, puis il l'a envoyé sur notre compte. Et c'est pour ça que le Père peut prendre sa masse et dire, je le déclare juste, pas à cause de ses œuvres de justice à lui, à cause des œuvres de justice de Christ imputées, qui est un beau mot de théologie, imputation, qui veut simplement dire mettre sur votre compte. Il a mis sur votre compte la parfaite obéissance de Christ. Donc, quel beau transfert comptable, hein? Vous lui donnez toutes vos cochonneries, qui sont infinies, puis lui vous transfère tout ce qui est de plus glorieux, tout ce qui est de plus merveilleux, il met sur votre compte. Il paye pour nos péchés, puis en plus, il accomplit ce qu'on devrait faire à notre place. C'est bien important de comprendre ça. Quatrième bénéfice, alors ça dit dans Romains 8, 33, « Qui accusera les élus de Dieu? » Nous sommes les élus de Dieu. Qui va venir nous accuser? Satan! Le Seigneur, il dit, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui nous a déclarés justes et il n'y a plus rien à faire. La Cour suprême du monde entier, de l'univers, a dit, paf! Il est justifié. Pourquoi? Parce qu'il croit en l'œuvre et en la personne de mon Fils. Il croit que ses péchés ont été jugés et son châtiment a été reçu. Et il croit également que la justice que j'exigeais pour qu'il vive en ma présence, c'est encore Christ qui l'a fait à notre place. Je ne le dirai jamais autant. Quand je prêchais à Québec, là, je pense que les gars qui ont été avec moi, ils ont dû entendre ça 1000 fois. Ben, je souhaiterais qu'ils entendent encore un autre 1000 fois. Parce que c'est tellement, c'est la base, c'est le salut. Si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris. Quatrième bénéfice, la paix avec Dieu. Christ nous délivre de la colère, ceux qui étaient autrefois des ennemis de Dieu. Les Écritures nous disent qu'on était des ennemis de Dieu avant de le connaître, avant qu'il nous fasse la grâce. Et là, maintenant, il nous réconcilie avec lui. Non seulement il fait de nous ses amis, mais il fait de nous ses enfants. Ses enfants. Ceux qui ont des enfants, ils se comprennent sur quel point on peut s'attacher à nos enfants. Colossiens 1, verset 20. Il a voulu, par lui, parlant de Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, dans Colossiens 1, 20. Cinquième bénéfice, la rédemption. Il libère ceux qui étaient asservis à la puissance du péché et à la domination de Satan. 1 Pierre 1, verset 18 et 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Lui, il n'avait rien fait de croche. Jamais, aucun, même pas, rien, zéro, nil. Apocalypse 5, versets 8 à 9. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils sont ici dans l'Apocalypse, quand on parle de l'agneau, on parle de Christ. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et vous, on parle de rachat par le sang. Autre sixième, la sanctification. Christ dispense ceux qui étaient autrefois perdus de toute tentative d'acquérir le salut par de bonnes œuvres. Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre par l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Important de comprendre la sanctification. C'est, encore une fois, c'est comme si le Seigneur nous disait par son œuvre, ce que j'exigeais de vous pour vivre en la présence du Père, je l'ai accompli à votre place. Vous êtes... Le Seigneur nous dit qu'on est des saints. On est des saints pas parce qu'on est si saints que ça, dans le fond. On est saints par Christ, en Christ, pour Christ. C'est important de saisir ça. Et dernier bénéfice, l'accès à Dieu, c'est que les Écritures nous disent qu'avant de recevoir la grâce, nous n'avions pas d'accès à Dieu. C'est comme si c'est fermé. La porte est fermée. Christ arrache ceux qui étaient étrangers, sans espérance, à la misère de l'éloignement de Dieu. Dans Éphésiens 2, versets 12 et 13, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Quelles applications qu'on peut faire d'une leçon comme celle de ce matin, de voir l'autel des reins? Rappelons-nous avec émerveillement de l'œuvre de Christ sur la croix. Il a détourné la colère de Dieu en subissant la peine qui nous était due à notre place et en couvrant la culpabilité de toutes nos offenses envers Dieu. Il a de plus accompli les exigences que Dieu demandait à tout pécheur pour vivre en sa présence, soit d'avoir obéi parfaitement à ses 10 commandements, à la perfection et durant toute notre vie. À la fois notre châtiment et notre obéissance à la loi, au décalogue, ont été accomplis de façon substitutive et vicariale. Donc, il s'est substitué à nous, une vicariale, ça veut dire qu'il nous a remplacés chacun individuellement. Que sa sainte personne soit bénie et louée à tout jamais. Amen. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons encore une fois à ta sainte présence. Et il est toujours bon de venir étudier ces textes qui nous présentent comment nous pouvions entrer dans la maison d'or, comment nous pouvions être réconciliés avec toi. Et comment, Seigneur, nous pouvions recevoir la vie éternelle, le pardon de nos péchés, et cette fameuse justification qui était absolument nécessaire pour que nous puissions vivre en ta présence. Et tous ces passages nous parlent de Christ d'une façon ou d'une autre. Permets, Seigneur, qu'on s'intéresse de plus en plus à l'étude de toutes les parties du tabernacle et tout ce qui concerne ces chapitres entre Exode 25 et Exode 40. Seigneur, permets qu'on comprenne bien ces choses, car elles sont primordiales à bien comprendre l'œuvre de Christ et à faire les liens que nous devons faire entre l'Ancien et le Nouveau Testament pour mieux comprendre à la fois la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta sainte personne soit honorée, louée et adorée à tout jamais. Nous te demandons ces choses par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.